France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 17 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le calme est revenu à Dijon après 4 jours de violence. Mais les habitants dénoncent l'intervention tardive des forces de l'ordre. L'État se défend de tout laxisme et promet une réponse extrêmement ferme. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Le pass Navigo va-t-il augmenter pour enflouer les caisses de la RATP ? Un médicament suscite l'espoir pour les patients gravement atteints par le Covid-19. Le suicide d'une militante égyptienne des droits homosexuels harcelée pendant 3 ans. Et puis la finale de Top Chef ce soir, alors que les Français ont retrouvé ces dernières semaines le goût du fait maison.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
À l'Est, du nouveau et ça casse un peu l'ambiance. La Chine reconfine, Pékin ferme ses écoles devant la recrudescence du virus. Doit-on avoir peur d'une deuxième vague en France ? On pose la question à l'infectiologue et chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Karine Lacombe sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons tous les deux dans le grand entretien de la matinale le député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Vous pourrez dire avec lui, évidemment, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Aucun incident à signaler donc cette nuit dans le quartier des Grésilles à Dijon, quadrillé depuis 24 heures par d'impressionnants renforts de policiers et gendarmes venus prêter main forte aux fonctionnaires locaux. Des unités supplémentaires arrivées trop tard, estiment les habitants encore traumatisés par 4 jours de guérilla. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Dijon. Un retour au calme donc qui s'explique par la présence importante de ces forces de l'ordre.
Oui, effectivement, ni feu de poubelle, ni agression, ni voiture brûlée, aucun débordement. Le calme est revenu. Il faut dire que dès hier soir, 2 unités de force mobile, soit un renfort de 150 policiers et gendarmes, 40 de plus que la veille, ont été déployés dans le quartier des Grésilles et dans le centre-ville de Dijon, en plus des effectifs locaux. Trop tard, estiment certains habitants encore traumatisés par les 72 heures d'expédition punitive des Tchétchènes.
Ils étaient où ? Le préfet, la police, la force de l'ordre ? On a été délaissé, le quartier il a été délaissé.
Bah oui,
oh, ils nous ont lâchés de toute façon, tout le monde. Les jeunes, ils sont mis en colère au 4e jour, parce qu'ils en avaient marre. Là, on a vu les forces de l'ordre. C'est ça qu'on veut comprendre, pourquoi il y avait les forces de l'ordre le 4e jour, juste pour les jeunes qui voulaient défendre leur quartier.
Réponse des policiers, impossible d'aller au contact alors qu'ils n'étaient qu'une dizaine sur le terrain, explique Stéphane Ragoneau, le secrétaire régional d'Alliance.
Moi je pense que franchement, même le RAID serait intervenu comme ça de manière inopinée face à une centaine de personnes armées, que voulez-vous qu'ils fassent ?
Et vous referiez pareil si ça devait recommencer ?
Ben je pense que oui, je pense que mes collègues ont pris franchement la bonne décision. Il fallait calmer la situation malgré les dégradations. Ce ne sont que des biens malheureusement. On n'aurait pas voulu qu'il y ait des blessés ou des morts.
Alors pour éviter que cela ne recommence ailleurs en France, Beauvau promet désormais de faire remonter au plus vite tous les troubles impliquant des membres de la communauté tchétchène. Les auteurs seront confondus, a prévenu le gouvernement.
Merci Gaëlle Joly, envoyé spécial de France Inter à Dijon avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques ce matin. Sur l'origine de cette flambée de violence, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. Ce sont en fait 2 jeunes d'origine tchétchène, âgés de 16 et 19 ans, inconnus des services de police qui ont été passés à tabac en milieu de semaine dernière. Pour se venger de ces attaques, des dizaines de membres de la communauté tchétchène venus de toute la France et même de Belgique et d'Allemagne ont alors semé la terreur dans ce quartier. Chamil Albakov est membre de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, une association créée en 2017 pour représenter les intérêts de cette communauté qui compte environ 200 000 personnes en Europe. Chamil Albakov qui justifie la réaction de sa communauté.
J'ai eu même les pères de ce jeune homme en ligne hier et effectivement il est dans un état grave, il est sous les soins, il s'est fait tabasser, ils ont mis un pistolet dans la bouche, ils l'ont humilié, ils l'ont filmé. Il faut pas plus pour provoquer une communauté qui est déjà reconnue pour les faits, qui se laisse pas faire, qui sont résistants. On est quand même passé par 2 guerres dévastatrices qui nous ont amenés ici. La France nous a accueillis, on est reconnaissant à la France. On n'arrête pas au niveau associatif de rappeler aux gens qu'on est là pour respecter la loi, pour être constructif dans tout ce qu'on fait. Par contre, quand on se fait agresser, il y a des gens, il y a des pères de famille qui prennent les devants et ils se protègent. Nous, notre communauté, il a une mentalité qui condamne tout ce qui est drogue, tout ce qui est consommation de drogue et tout ce qui est trafic de drogue.
Témoignage recueilli par nos confrères de France Info. Une affaire qui a pris une tournure politique. Venue sur place hier, Marine Le Pen a agité le spectre d'une guerre civile. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé dans la soirée l'examen systématique d'une possible expulsion des étrangers impliqués dans ces violences.
Il est 7h05. Comment, Agnès, comment combler le trou de la RATP?
Un manque à gagner estimé à 350 millions d'euros et le retour à la normale est très lent. Parmi les solutions envisagées, donc, l'augmentation du prix du pass Navigo. Maxime Debs.
Augmenter le tarif de l'abonnement Navigo de 20 euros pour combler les pertes des opérateurs de transport dues au confinement, c'est l'idée, si ce n'est la menace lancée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, s'il ne met pas au pot pour éponger les pertes des opérateurs, dont la RATP, le télétravail étant toujours de mise, la fréquentation du métro à Paris n'est que de 30% à ce qu'elle est habituellement. Les recettes commerciales de l'entreprise ont ainsi chuté en 3 mois. L'impact du virus sur son résultat net, plus qu'important, évalué à 300-350 millions d'euros. Un plan d'économie est d'ailleurs en préparation en interne. Or, si l'aéronautique a eu son plan d'aide, la filière auto également, côté transport, on attend toujours. Île-de-France Mobilité, l'autorité qui organise les transports publics en région parisienne, prévient que sans soutien, il lui sera difficile dès le mois prochain de payer à 100% les opérateurs qu'elle emploie pour faire circuler les franciliens. L'une des solutions pourrait être alors de réduire la voilure au niveau des métros cet été, mais personne ne veut en arriver là.
Et rappelons que vous avez jusqu'à ce soir pour vous faire rembourser votre pass Navigo sur la période du confinement. Les chiffres de l'épidémie publiés hier soir, 38 morts au cours des dernières 24 heures dans les hôpitaux, 73 décès dans les EHPAD en une semaine et le nombre de malades en réanimation qui continue de baisser, 820 patients hier soir, alors qu'un médicament suscite un nouvel espoir. Selon les responsables du vaste essai britannique Recovery, la dexaméthasone réduit la mortalité chez les malades les plus gravement atteints. Le professeur Stéphane Gaudry, médecin intensif réanimateur spécialisé en recherche clinique, estime là qu'il s'agit d'une grande avancée. Il répond à Hélène Chevalier.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un traitement qui est relativement simple d'utilisation et qui ne coûte pas cher. Il n'y a pas la suspicion complotiste de Big Pharma derrière. C'est un traitement qui ne coûte que quelques euros par jour et qui est utilisé d'ailleurs fréquemment dans les maladies inflammatoires, dans certaines méningites. Il est recommandé d'utiliser la dexaméthasone pour réduire les séquelles neurologiques dues à la méningite. Et dans le Covid-19, les services de réanimation, pour beaucoup, utilisaient déjà des traitements immunosuppresseurs et en particulier des corticoïdes, en dehors des essais cliniques, parce que justement, il y avait cette hypothèse que peut-être ça marchait, mais on avait besoin d'essais cliniques pour le prouver. Très clairement, si cette étude est confirmé lorsqu'on aura bien lu le papier et ses résultats sont confirmés, il est très clair qu'il faudra recommander l'utilisation de ce traitement-là, cette corticothérapie, chez les patients les plus graves atteints de Covid-19.
Le virus qui continue de circuler activement en Guyane, 95 cas supplémentaires recensés hier, 2 nouveaux décès. Pour aider les équipes locales, la Guyane a fait appel à la réserve sanitaire. Stéphane Ourmont est arrivé en Guyane fin mai, après avoir lutté contre l'épidémie en Alsace. Rémi Brancato a pu le joindre.
Stéphane Ourmont a quitté l'hôpital de Strasbourg pour la forêt amazonienne à la frontière avec le Brésil il y a 2 semaines et demie.
Après avoir reçu l'aide de beaucoup de monde à Strasbourg, il était logique pour moi de proposer mon aide dans une situation aiguë ailleurs.
À Camopi, village amérindien, foyer de coronavirus mi-mai, il ouvre un centre de dépistage, pas encore fatigué, dit-il, par l'épreuve de l'épidémie.
Il y a l'adrénaline, il faut y aller, donc on se pose pas de questions, on va au combat. Comme je l'avais vu à Strasbourg, quand les choses commencent à retomber un petit peu, les gens ressentent la fatigue à ce moment-là.
Depuis 13 ans, avec la réserve sanitaire, ce cadre supérieur de santé a vécu des catastrophes comme les séismes en Haïti et au Népal. En Guyane, il se sert évidemment aussi de l'expérience récente, le Covid, en Alsace.
Quand on est arrivé à Camopi, un nombre important de mes collègues qui, sur le dispensaire, avaient été touchés eux-mêmes par le Covid. Il y a eu une campagne de dépistage et de prévention qui a été très bien acceptée par les habitants. Là, on voit les fruits puisque les choses semblent s'apaiser sur ce secteur.
Il n'y a plus de nouveaux cas à Camopi depuis une semaine, mais en Guyane, partout ailleurs, l'épidémie progresse. Stéphane Ourmont reste optimiste.
La crise est arrivée un petit peu plus tard ici. Ce temps de latence a permis, en tout cas à l'ARS, de solliciter du monde pour limiter cette crise.
Le soignant rentre dimanche en métropole. L'ARS, l'agence régionale de santé, attend d'autres renforts dans les prochaines semaines.
De l'Alsace à la Guyane, un parcours étonnant à retrouver sur franceinter.fr. L'inquiétude en Chine, après la découverte d'une centaine de nouveaux cas à Pékin, 1 millier de vols ont été annulés. les autorités invitant les 21 millions d'habitants de la capitale à éviter tout déplacement non essentiel. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Elle était le symbole de l'oppression des autorités égyptiennes contre les homosexuels. La militante Sarah Egazi, en exil au Canada, s'est suicidée dimanche dernier. Sa mort provoque l'émotion et la colère des militants de la cause LGBT partout dans le monde. Claude Guibal.
C'était un soir de 2017 au Caire. Sur scène, le groupe libanais Mashrou Leila et son chanteur Ahmed Sino, une des rares voix arabes à revendiquer son homosexualité. Dans la foule, soudain, des drapeaux arc-en-ciel. L'un est brandi par une jeune femme, Sarah Egazi. La photo qui immortalise cet instant la montre le visage barré d'un immense sourire. Mais dès le lendemain, c'est la curée. Sur les réseaux sociaux, dans les shows télévisés. Officiellement, l'homosexualité n'est pas interdite en Égypte, mais c'est sous l'accusation de débauche que régulièrement le régime égyptien s'en prend aux homosexuels. On les accuse de chercher à détruire le pays en pervertissant ses valeurs, en important des mœurs venues de l'Occident, des gages donnés aux conservateurs qui permettent ainsi régulièrement à l'État de fédérer la population autour de boucs émissaires et de détourner l'attention des voix trop critiques. Les jours qui suivent, des arrestations ont lieu par dizaines, dont celle de Sarah Egazi. Libérée après une discrète pression diplomatique, elle racontera par la suite avoir été violentée en prison, détruite psychologiquement. En mettant fin à ses jours, elle a laissé un message. Le voyage a été trop cruel. Je suis trop faible pour résister. Pardonnez-moi.
Le récit de Claude Guibal. On en saura un peu plus ce soir sur la fin de la Ligue des Champions. Les 8 meilleures équipes dont le PSG devrait s'affronter durant 10 jours au mois d'août, sans doute au Portugal, où tout se jouera en une seule rencontre.
Et pour finir, l'une des grandes activités des Français durant le confinement, la cuisine.
Ce retour au fourneau a boosté les audiences des émissions culinaires et notamment Top Chef sur M6. La 11e saison a réuni près de 4 millions de téléspectateurs tous les mercredis soirs depuis fin mars. Et la finale, c'est ce soir, Alexandra Akoun.
Comment tu vas la faire? Tu vas la faire directement dans un rondeau?
Moi, je vais les faire au four.
3 900 000 téléspectateurs en moyenne par épisode, 16% de part de marché, un sommet pour M6 depuis 7 ans, ses résultats médiamétrie, surtout l'émission a cartonné auprès des femmes et des actifs, cible privilégiée de la 6. Alors, on dit merci le confinement, bien sûr, mais pas que. Stéphane Rothenberg, présentateur de Top Chef.
On a retrouvé aussi le goût de la cuisine, la nécessité de bêtement de cuisiner. Toutes les émissions de cuisine ont très bien marché, que ce soit celle de Cyril Lignac ou effectivement la nôtre. Alors nous, c'est un concours de cuisine et cette saison, on leur avait demandé de faire de l'audace, de éventuellement faire moins de viande, moins de protéines, plus de légumes. Et on essaie toujours de coller à l'air du temps. Il y a eu des résultats saisissants et surtout, ça a plu au public.
Un succès d'autant plus satisfaisant pour l'animateur qu'elle a été compliquée à boucler cette saison. Toute la post-production s'est faite à distance pendant le confinement.
Normalement, c'est 20 bancs de montage avec 20 monteurs, 20 journalistes. Cette fois-ci, c'était pas possible. Donc chacun travaille de chez soi, qui a été vertigineux, on a pris du retard, il y a même des émissions qui ont été techniquement un tout petit peu justes. Moi, j'ai trouvé que la voiture était la meilleure cabine de son possible par rapport à la maison, donc je faisais ma voix off dans ma voiture. Mais on a réussi, on a tourné la révélation, ce qu'on appelle la cérémonie des couteaux, pendant le confinement, donc en visioconférence, la fin de l'émission va être un peu atypique.
Atypique, mais sûrement très suivie, elle aussi.
Alors, qui sera à la hauteur des plus grands?
Réponse ce soir.
Et les deux finalistes sont David, 30 ans, et Adrien, 29 ans, réponse ce soir.
Allez les gars, merci Agnès Soubiran.